Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Salazar, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Clément Daté. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées aux minorités, ou peut-être plus précisément aux populations minorisées. Ce matin, c'est de leur lutte pour l'accès aux mêmes privilèges sociaux, économiques, culturels, politiques, en bref, pour l'égalité réelle que nous intéressons. Comment structurer l'action collective, selon quelles modalités et quel processus d'identification. Des États-Unis à la Turquie, comment se mobiliser face à la violence institutionnelle? C'est notre sujet ce matin.
In a court of law, there are facts.
Dans un tribunal, il y a les faits, mais il y a aussi l'opinion publique. Et maintenant, nous sommes dans le tribunal de l'opinion publique. Et dans cet espace, beaucoup de gens se méfient de la police, qui est connue pour avoir dissimulé ses exactions par le passé. Alors l'opinion publique, elle, cherche vraiment à lever le voile et à savoir ce qui s'est passé. Et généralement, ça n'est pas joli joli. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes parler de la question de la diffusion de la vidéo, parce que les gens s'en fichent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est faire ça bien, être juste dans cette affaire et faire entendre la voix et la frustration de la population. Cette vidéo n'est qu'une pièce du puzzle et la foule n'est pas en train de juger ces policiers. Ils n'essayent pas de les juger, puis de les condamner, puis de les pendre. Je pense que ce qu'ils disent, c'est « soyons ouverts, soyons transparents, montrons à notre communauté, à la police, au système que nous voulons faire ça bien ».
Une voix qui émergeait de la troisième nuit de manifestation à Charlotte, il y a quelques jours après le meurtre d'un homme noir tué par la police. Trayvon Martin, Eric Garner, Tamir Rice, Freddie Gray, la liste des hommes noirs qui ont perdu la vie lors de bavures policières est longue, très longue. Pour l'année 2015, elle s'est élevée à 258. Pour 2016, selon un récent constat du Washington Post, nous en sommes déjà à 171. Si pendant longtemps, ces bavures passaient relativement inaperçues, aujourd'hui, elles s'exposent au grand jour sous l'effet des réseaux sociaux, entraînant de nombreuses mobilisations à tel point que les États-Unis semblent vivre le plus grand mouvement de mobilisation depuis le mouvement des droits civiques des années 50-60. En effet, les manifestations dénonçant ces meurtres raciaux se multiplient rien que pour ce mois-ci. Charlotte après la mort de Case Scott, San Diego en Californie après la mort d'Alfred Olango. Plutôt dans l'été, c'était plusieurs grandes villes du pays qui organisaient des protestations pour dénoncer des violences raciales de la police et protester contre la mort de deux hommes noirs tués par les forces de l'ordre. Black Lives Matter, entend-on. En pointe de ces protestations, le mouvement Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent. Un mouvement créé en 2013 dans le sillage de l'affaire Trayvon Martin, ce jeune afro-américain de 17 ans abattu par un homme blanc chargé de la surveillance de son quartier. Le slogan Black Lives Matter apparaît d'abord sous la forme d'un hashtag utilisé sur les réseaux sociaux dans le billet d'une résidente de Los Angeles qui avait été particulièrement choquée par l'acquittement de George Zimmerman, le meurtrier de Trayvon Martin, avant de devenir un mouvement créé par trois afro-américaines. Aujourd'hui, il existe 23 sections locales aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. On va essayer de comprendre comment s'organise cette mobilisation citoyenne, comment un tel mouvement a pu émerger pendant le mandat du premier président afro-américain. Est-ce qu'on assiste à l'apparition d'un nouveau type de militantisme antiraciste qui tenterait de faire converger les différentes luttes? Et puis, au-delà du cas états-unien, nous nous intéresserons également à la Turquie, où là, peut-être plus encore qu'aux États-Unis, la contestation et la mobilisation est difficile. Ça sera pour tout à l'heure. D'abord, place aux États-Unis avec Audrey Célestine. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste à l'université Lille 3. Vous travaillez sur les processus de mobilisation des minorités ethniques en France et aux États-Unis. Vous avez écrit un article à paraître dans le prochain numéro de Politique américaine intitulé « Un mouvement, pas un moment, Black Lives Matter et la reconfiguration des luttes minoritaires à l'ère Obama ». On va s'intéresser évidemment à ce mouvement. Mais d'abord, peut-être un premier mot de réaction. 8 ans après l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, qui nous promettait de basculer dans une Amérique post-raciale, on se rend compte que finalement, en réalité, la question raciale, elle est encore très prégnante. Quel regard vous portez sur cette flambée de violence raciale, disons-le comme ça? Qu'est-ce qu'elle vous semble révéler? Quelle responsabilité peut-être pour l'actuel président américain?
Alors, cette flambée est en fait dans la continuité de violence exercée par la police et en tout cas c'est ce que dénoncent les militants par l'État de manière générale contre les populations minoritaires, en particulier les Afro-Américains. Ce qui change depuis 2013, c'est la visibilité de ces violences, la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux et la mobilisation suite à la diffusion de ces vidéos. Ça, c'est vraiment le grand changement. Que ça se passe sous la présidence de Barack Obama, ce n'est pas si étonnant, parce qu'on a effectivement eu tout un récit qui était celui de l'Amérique post-raciale et qui est globalement mis à mal parce que les inégalités raciales persistent, dans certains cas se renforcent. Et la présence d'un président afro-américain ne change pas cet état de fait. Et donc, voilà, très clairement, dans un sens, Barack Obama et sa présence comme président pendant 8 ans agit comme une sorte de révélateur que non, l'Amérique n'est définitivement pas un pays post-racial.
D'accord, donc il y a cette nouvelle visibilité d'une certaine manière liée à nos réseaux sociaux, mais il y a aussi peut-être le fait que ces mouvements de protestation révèlent d'une certaine manière le fait que le président américain n'en a peut-être pas fait suffisamment pour la communauté noire américaine. En tout cas, c'est ce qu'elle considère.
Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a un certain nombre de dispositions qu'a essayé de prendre le président, mettre en avant de la législation qui serait racialement neutre sur la sécurité sociale, sur un certain nombre sur la revalorisation des heures supplémentaires, etc. Mais très clairement, Barack Obama a fait face à une obstruction de la part des républicains extrêmement forte, et son élection a largement contribué à polariser la scène politique aux États-Unis, ce qui n'a pas aidé à mettre en place des réformes. Après, de fait, son agenda et l'agenda, de même que sa rhétorique, sont relativement centristes et assez peu en phase avec les discours des militants dont on va parler tout à l'heure. Ce qui fait qu'en tout cas, dans les tentatives qui ont été menées par le président Barack Obama pour réduire les inégalités raciales, de fait, il y a eu une impossibilité d'agir sur un certain nombre de niveaux.
Donc ce n'est pas seulement de son fait. Black Lives Matter, donc créé en 2013, je le disais tout à l'heure dans mon chapeau, qui émerge dans le sillage de cette affaire Trayvon Martin. Ce slogan Black Lives Matter apparaît d'abord sous forme d'un hashtag avant de devenir un vrai mouvement. Et la question que vous posez, c'est celle de comprendre comment un tel mouvement peut émerger pendant le mandat donc d'un président afro-américain. Vous dites à propos de ce mouvement, qu'il est, je vous cite, le plus vaste mouvement social depuis le mouvement pour les droits civiques des années 50-60. En quoi ce mouvement vous paraît-il novateur par rapport à ce qui existait déjà ?
Alors, nous, il nous a semblé, alors je dis nous parce qu'on l'a écrit avec Nicolas Martin-Breton, qui est historien des États-Unis, le mouvement nous a paru à la fois dans une forme de continuité, mais également novateur. Il est novateur notamment parce qu'il met en avant des figures qui sont les figures généralement oubliées des mouvements afro-américains, notamment voilà le fait de mettre en avant des femmes, des personnalités qui se définissent comme queer, de mettre en avant les personnalités les plus marginalisées, alors même qu'elles souffrent de manière redoublée des effets des inégalités. C'était une particularité, cette idée de mettre en avant un mouvement extrêmement inclusif, qui ne soit pas uniquement un mouvement masculin, et du coup avec une volonté très tôt de se présenter comme un mouvement qui sera un mouvement intersectionnel, c'est-à-dire qui mettra en avant l'ensemble des formes d'oppression qui aboutissent à la domination, et de voir dans quelle mesure tous ces éléments pouvaient se renforcer mutuellement. Et
d'accord, donc, mais c'est important, vous parlez d'un mouvement intersectionnel, il faut un tout petit peu s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, en fait ce qu'on essaye de faire dans ce type de lutte, c'est de dépasser la question purement raciale, purement ethnique, pour l'élargir à toutes les questions liées finalement à la domination, que ce soit la question raciale, la question de classe, la question de genre, la question de sexe. L'objectif, c'est de, et là je vous cite, mettre en relation, sans les hiérarchiser, de multiples initiatives de mobilisation politique locale.
C'est ça, tout à fait. Il y a l'idée que globalement, l'oppression en raison de la race, de l'ethnicité, de la classe, du genre, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, sont tout un tas d'éléments qui viennent à se renforcer. Ce qui pose, voilà, ce qui est très intéressant comme programme, et qui en même temps, c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'article, pose tout un tas de problèmes pratiques, parce que en pratique, c'est quand même très compliqué de prendre tout en compte. Et de fait, la mobilisation, tout en n'ayant à cœur de mettre en avant certains types de leaders, d'être extrêmement inclusif, de mettre en avant un discours qui serait intersectionnel et de le faire le plus possible dans les pratiques, est aussi un mouvement qui va se concentrer au départ sur la question des violences policières qui touchent en particulier les hommes noirs, c'est-à-dire que hiérarchiser les luttes dans un sens, dans la pratique, en se concentrant d'abord sur les violences policières qui touchent les hommes noirs, n'est pas, de leur point de vue, en contradiction avec le fait, malgré tout, d'avoir une approche intersectionnelle.
D'ailleurs, à Charlotte, on pourrait le dire, le policier qui a tué Kes Lehman Scott, qui est donc ce noir américain de 43 ans, il a été abattu par un policier qui était lui-même noir, c'était Brantley Vinson. Et on sait que la réponse, évidemment, des forces de sécurité face aux manifestations a été extrêmement forte et dénoncée. Ce qui est pointé du doigt ici, c'est aussi cette politique répressive des autorités qui, depuis quelques années, ont vu leurs moyens matériel et humain considérablement renforcé. On a assisté à une militarisation, d'une certaine manière, des forces de police américaines, avec des véhicules blindés, avec des fusils d'assaut, avec des tenues de guerre. Et c'est aussi ce phénomène qui est dénoncé par Black Lives Matter. C'est un exemple qui montre que finalement, les objets de la lutte sont plus larges que la seule question raciale. L'objet de la lutte, une fois encore, c'est la domination.
C'est la domination, mais avec cette idée aussi que la question raciale, et notamment le traitement des populations noires, englobe une grande partie de ces luttes contre la domination. Et c'est intéressant ce point sur justement le fait que le policier soit un policier noir, parce que pour les militants de Black Lives Matter, et en ça ils s'inscrivent dans une tradition qui est pas si nouvelle, hein, d'appréhension du racisme, l'idée c'est que le racisme c'est pas une question individuelle, c'est pas juste des préjugés qu'auraient des blancs contre des noirs. Il s'agit d'une analyse du racisme comme un racisme institutionnel. Ils vont un point plus loin en parlant de racisme d'État, ce qui fait que quand on est pris dans ce racisme institutionnel, le fait qu'un policier noir tue un homme noir n'est pas hors du monde. La preuve, c'est exactement ce qui se fait, et ça n'empêche pas qu'on puisse le dénoncer au nom du racisme. Parce que le racisme n'est pas un fait individuel.
Mais alors, Audrey Célestine, si la discrimination est une production de l'État, vous parlez vous-même, en tout cas ces mouvements parlent de racisme d'État, de violence d'État, on insiste beaucoup finalement sur le rôle qu'on considère comme néfaste de l'État. Est-ce à dire que les militants du mouvement Black Lives Matter sont des libertariens qui refusent l'autorité de l'État ?
Je dirais pas que ce sont des libertariens, mais en tout cas, il y a une très forte volonté de réforme de l'État, de réforme des politiques publiques. Et c'est vrai que ça, c'est une des questions qu'on pouvait poser il y a encore quelques mois. Bon, alors que faire exactement si effectivement le problème il est structurel, c'est un problème de racisme institutionnel, à part si on met à bas tout le système, que fait-on ? Alors, certaines franges du mouvement sont plutôt pour une mise à bas du système. Il y a des éléments révolutionnaires très clairement dans Black Lives Matter, parce qu'il s'agit aussi d'une coalition. Très clairement, il y a eu un effort de fait de la part de cette coalition pour mettre en avant des demandes très précises de réformes qui concernent certes la police, mais pour eux la police c'est un peu juste le bout de l'iceberg, en rapport avec le contrôle de la police, des écoles, l'incarcération de masse en particulier des hommes afro-américains. Il y a tout un tas, il y a depuis quelques jours on peut trouver en ligne une plateforme extrêmement précise de demandes politiques pour des changements de politique publique. Donc en tout cas il y a une volonté, à minima, de réforme de l'État qui est extrêmement importante.
Mais qui ne traverse pas l'ensemble du mouvement. C'est ça que vous voulez dire.
Ce que je veux dire, c'est que
on ne partage pas cette idée selon laquelle il faut réformer, il faut obtenir de nouveaux droits à travers de nouvelles lois.
Alors, la plateforme a quand même été l'objet de discussions avec l'ensemble des organisations de la coalition. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue idéologique chez une partie des militants de Black Lives Matter, il y a aussi un courant qui est plus révolutionnaire. Pour autant, en tout cas dans les affirmations publiques et dans la mise en avant de cette plateforme qui est celle de Black Lives Matter, il s'agit de réformes profondes.
On va revenir dans un instant, Audrey Célestine, on va en venir à la question des profils des personnes qui ont fondé ce mouvement, mais d'abord je reviens un court instant sur ce terme d'intersectionnalité qui appartient quand même au monde académique. C'est un mot qui vient dans des disciplines comme le gender studies, dans les black studies ou même dans la théorie queer. Preuve que les cadres de ces mouvements, de ce mouvement dont on va parler dans un instant, ont cet ancrage extrêmement fort dans la production théorique.
Ah oui, complètement. Et ça, c'est intéressant quand on regarde les profils des trois femmes qui ont lancé vraiment le mouvement. On voit une proximité très forte avec le monde universitaire, avec la théorie critique. Ce sont toutes des femmes qui sont diplômées de l'université, qui ont des masters, qui ont beaucoup lu, qui ont aussi un passé ou un présent d'activistes professionnels. Donc voilà, ce sont des gens qui ont des parcours et une vraie proximité avec le milieu académique. Et milieu académique qui d'ailleurs...
C'est des gens qui ont tous lu Judith Butler, par exemple.
Oui, qui ont lu aussi les black féministes, très clairement, et qui sont dans un dialogue continu avec l'université.
Venons-en, Audrey Célestine, si vous voulez bien, justement, au profil de ces fondatrices qui ont tout un parcours dans le domaine du community organizing, dont on parlera tout à l'heure avec Julien Talpin. Qui sont ces trois figures qui sont à l'origine du mouvement?
Alors, les trois figures, Opal Tometi, Alicia Garza et Patrice Cullors, enfin qui en même temps sont un peu contre le fait de représenter complètement le mouvement. Il y a vraiment aussi
une structure très d'horizontalité.
Oui, tout à fait. Mais voilà, parmi elles, deux d'entre elles se définissent comme des femmes queer. Elles ont des parcours assez différents, mais qui ont en commun d'avoir passé plusieurs années dans le monde militant, que ce soit pour Alicia Garza par exemple dans la défense des droits des travailleurs et travailleuses domestiques, pour Opal Tometi, le droit des migrants, en particulier africains et caribéens. Par exemple, Opal Tometi a été très active dans une campagne ces dernières années sur la question du retrait de la citoyenneté aux Haïtiens de République dominicaine, en mobilisant du coup des populations dominicaines aux États-Unis sur ces questions. Donc il y a aussi la volonté d'inclure l'ensemble des populations qui sont souvent invisibles, les personnes qui ont migré, qui peuvent se retrouver sans papier ou en tout cas qui sont face à un certain enjeu, qui sont pas des afro-américains en tant que tels, mais voient d'origine nigériane, jamaïcaine, etc.
Et, elle est d'origine nigériane, elle précise.
Elle est elle-même d'origine nigériane. Et voilà, l'une d'entre elles est une artiste qui a bénéficié d'une bourse Fulbright à un moment donné. Donc voilà, ce sont des gens qui ont quand même, qui ont une petite trentaine, ont souvent été récompensés pour leur travail de militante professionnelle, je pense que c'est une chose dont vous avez parlé avec Julien Talpin, et qui sont à la fois dans la continuité de ce qu'on pouvait avoir avant du community organizing, de ce travail qui dans l'espace public et l'espace militant aux États-Unis est extrêmement fort, extrêmement légitime, la professionnalisation aussi du travail militant, et puis qui en même temps sont nourris par une recherche théorique qui pousse en tout cas dans l'organisation du mouvement à mettre les marges au centre du mouvement, à mettre en avant des figures qui ne sont généralement pas considérées comme étant l'archétype de l'afro-américain à défendre, mais en disant voilà, c'est pas parce que ces personnes ne sont pas représentatives qu'elles ne sont pas elles sont même au centre de la question des oppressions. Il y a par exemple toute une partie du mouvement qui est vraiment consacrée aux violences contre les femmes trans afro-américaines qui sont qui subissent un taux de mortalité d'homicide qui est extrêmement important, et l'idée c'est que ces personnes sont généralement oubliées parce qu'elles ne représentent pas l'archétype de la figure de l'opprimé aux États-Unis, alors que pour le coup elles subissent la violence de manière extrêmement forte.
Et qu'est-ce qui fait le succès du mouvement? Est-ce que c'est précisément parce qu'on remet les marges au cœur de la question, ou est-ce que c'est aussi lié, j'allais dire, à ces trois personnalités, à leur charisme, à leur combat, à ce qu'elles incarnent quand même d'une certaine manière?
Je pense que leur personnalité a de l'importance, mais je pense que le mouvement a réussi justement à développer cette horizontalité, à faire en sorte de s'appuyer sur des réseaux déjà existants d'organisations. Alors il y a tout un tas d'organisations qui se sont créées après 2013, mais le mouvement s'est largement appuyé sur d'organisation, des traditions militantes qui étaient déjà présentes, et finalement elle donne une visibilité nationale à des tas d'initiatives locales. Et je pense que ça c'est la force du mouvement. Tout un tas de gens qui pouvaient se sentir un peu isolés ou qui, en tout cas qui avaient une action extrêmement locale, puissent se retrouver sous un chapeau commun au nom de la lutte contre les inégalités et l'oppression des Noirs américains.
Si on regardait ce qu'on trouve en termes de continuité et de rupture entre ce mouvement et le mouvement des droits civiques des années 50-60, il y a une des différences que vous notez dans votre article, c'est la question de la place de l'Église. Finalement, l'Église n'a pas d'importance aujourd'hui dans ce mouvement-là. Comment le comprendre et quelles conséquences ça a?
Je pense que
les capacités de mobilisation, sur le profil des manifestants qui vont se retrouver derrière ces luttes, etc.
Bah effectivement, je pense que voilà, tout au long du XXe siècle, l'Église a été vraiment un endroit essentiel de la mobilisation des Afro-Américains. Ça a été un lieu de socialisation, de politisation extrêmement fort, de levée de fonds, mais également de cadrage des mouvements. Et très clairement, la sortie de ces lieux qui étaient offerts dans tous les sens, hein, ces lieux offerts par les églises, elle est à la fois en lien avec cette approche très critique que peuvent avoir les fondatrices du mouvement, et du coup, elle fait qu'on n'a pas exactement le même type de mot d'ordre, le même type de rapport, par exemple, à la respectabilité, mais ça c'est un peu plus compliqué, parce que pour le coup, une partie des mobilisations à partir des églises à l'époque apparaissent comme tout à fait respectables et pas dans la... l'agitation, comme on qualifie aujourd'hui Black Lives Matter, mais à l'époque, c'est pas du tout considéré comme tel. Hein. Enfin, les gens se faisaient arrêter aussi. Mais malgré tout, ça fait qu'on a l'Église n'est plus un lieu essentiel de politisation pour les Afro-Américains. Et moi, je pense que ça a à voir avec justement cet impact très très fort des populations plus marginales, de la théorie critique dans la construction idéologique des leaders du mouvement.
Si on s'intéresse à l'avenir politique possible pour ces grandes figures, pour ces cadres, disons, de ce mouvement-là, quel avenir politique leur voyez-vous justement? Est-ce que vous imaginez un avenir politique pour ces gens-là?
C'est vrai que c'est une question qui est compliquée. Quelques mois, on pouvait se poser la question mais finalement, que veulent-ils? Comment parvenir à mettre en œuvre toutes ces réformes? Là, on voit malgré tout que la plateforme se fait de plus en plus précise. S'est posé également la question mais vont-ils soutenir un des deux candidats à la présidentielle?
La réponse?
Et la réponse, pas vraiment. Individuellement, il peut y avoir des prises de position en faveur de Clinton, mais il y a quand même une réticence à soutenir Hillary Clinton, qui est pas vue comme quelqu'un qui défendrait particulièrement ses enjeux, même si elle a parlé
de... Ils étaient plus enclins à soutenir Bernie Sanders.
Oui, même s'ils étaient aussi assez critiques de Bernie Sanders, mais Bernie Sanders était plutôt à l'écoute des critiques qui étaient formulées à son égard. Et même si Hillary Clinton a bien parlé de racisme institutionnel, ce qui montre bien que ces mobilisations ont des effets, parce que c'est pas un terme qu'elle aurait nécessairement utilisé avant, mais en tout cas elle l'a fait au moment du débat contre Trump. Voilà. De fait, le fait d'avancer en mettant en avant des propositions de réforme, c'est un point important. On peut se poser la question de la traduction dans l'espace politique. Alors, on a vu la tentative de candidature à la mairie de Baltimore de l'un des leaders aussi du mouvement. Hein. Ça donnera.
L'élection n'a pas eu lieu.
Ça n'a pas donné grand chose. Mais voilà, on pourrait.
L'élection n'a pas eu lieu.
Non.
Oui, c'est ça.
Mais bon, enfin, je veux dire, dans les sondages, il est vraiment très loin.
D'accord.
c'est ce que je veux dire. D'accord. C'est vraiment très, très minimal. Mais du coup, voilà, on peut penser à une implication politique
au niveau local.
Mais en tout cas,
il y a ce désir de participer.
Et puis, il y a cette structuration et cette force de proposition de plus en plus forte.
Vous parliez des effets de ces mobilisations. On peut se demander, justement, quels sont les résultats en termes de réformes, de lois. Finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que ce mouvement, qui a maintenant presque 3 ans, a gagné sur le terrain de la réforme?
Sur le terrain de la réforme, pas encore grand-chose. Il y a une task force qui a été mise en place par le président Obama il y a quelques mois, mais qui, en gros, n'a pas donné grand-chose dans la mesure où une bonne partie des présupposés de Black Lives Matter sont pas entendus en face, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aura un racisme d'État, c'est pas une chose qui est mise en avant. Obama reste par exemple beaucoup dans une perspective parfois un peu morale sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas pour les Afro-Américains. Donc voilà, moi je pense qu'on est quand même ils sont loin de l'application. Pour autant, le mouvement il prend de l'ampleur. On a cette impression qu'il y a cette espèce de flambée en continu parce qu'il ne laisse assez peu de choses passer. On a une mobilisation forte, rapide, à chaque bavure, entre guillemets. Hein, à ce rythme-là, c'est plus des bavures, c'est un mode de fonctionnement. Donc voilà, je pense qu'il y a une mise en visibilité qui est très très forte sur les résultats en termes concrets. Je pense qu'il faut encore attendre.
Vous dites qu'il y a par exemple une des stratégies de ce mouvement Black Lives Matter qui est de faire révoquer les juges qui n'ont pas voulu poursuivre les policiers suspectés d'avoir tué de jeunes noirs, avec parfois, pour le coup, un certain succès.
Oui, voilà. En tout cas, je pense que justement, l'appui au niveau local sur des mouvements qui existent déjà, de volonté de réforme policière, etc., ça, c'est une des pistes. Et plus qu'une...
Il y a deux juges qui ont été révoqués à Chicago et
ouais,
à Cleveland.
Tout à fait, ouais. Donc oui, effectivement, ça fait partie
des choses qui sont
importantes dans un contexte où, voilà, il y a très très peu de, non seulement de condamnation, mais même de mise en examen des policiers qui tuent des Afro-Américains.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Cette semaine, autour des minorités, aujourd'hui discriminées, s'organiser pour mieux lutter. On est avec Audrey Célestine, politiste à l'université Lille 3. On va retrouver un nouvel invité, Julien Talpin, depuis Los Angeles, chargé de recherche en sciences politiques au CNRS et co-rédacteur en chef de la revue Participation. Julien Talpin qui s'intéresse au community organizing, l'organisation communautaire, on pourrait le traduire comme ça, un modèle, un processus par lequel des gens se regroupent pour promouvoir leurs droits. C'est une forme de mobilisation qui nous vient des États-Unis et par lequel on observe, on en avait parlé il y a quelque temps ici à ce même micro, une forme de renaissance du politique avec des résultats mais aussi bien sûr des limites. Julien Talpin, il a passé plusieurs mois en 2012 pour comprendre ces mouvements du côté de Los Angeles. Il avait eu l'occasion donc d'en parler à ce même micro en mai dernier. Alors depuis, bien sûr, les États-Unis, on en parle avec vous, Audrey Célestine, ont connu des semaines, des mois difficiles, notamment avec ces manifestations à Charlotte. Pendant plusieurs nuits, des centaines de manifestants ont défilé dans les rues sous l'œil des militaires de la garde nationale. Il y a également eu cet autre homme noir mort sous les balles d'un policier à Tulsa dans l'Oklahoma. La semaine dernière encore, dans la banlieue de San Diego en Californie, des centaines de manifestants qui réclamaient une enquête fédérale au lendemain d'un autre meurtre, celui d'un homme noir non armé. Quel est le degré de porosité, Julien Talpin, entre ces mouvements de contestation et peut-être en premier lieu ce mouvement des Black Lives Matter et puis les personnes engagées dans les community organizing? Au-delà de ces trois fondatrices dont on vient de parler avec Audrey Célestine, qui étaient donc toutes les trois actives comme organizers, quels sont les ponts, les liens entre les manifestants qui dénoncent les violences raciales et puis ces associations destinées à peser localement sur les politiques? Julien Talpin.
Il y a des liens évidents qui sont liés à leur fondatrice, évidemment, qui elle-même était formée au community organizing. L'autre lien, c'est la très grande sensibilité des membres des associations, des organisations communautaires aux États-Unis à la question des violences policières, de l'incarcération de masse et des discriminations à l'égard des minorités. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a des différences quand même assez fortes dans les modalités d'action du mouvement Black Lives Matter, qui est assez radical, qui a recours principalement à des manifestations, voire à de la désobéissance civile, qui va faire de l'action directe, et le community organizing qui essaye plutôt de mettre en place des campagnes à plus long terme, qui est plus réformiste d'une certaine façon, et qui essaye de faire évoluer les politiques publiques, qui essaye de faire passer des lois, que ce soit à l'échelle californienne, par exemple, pour les recherches que je mène ici, ou même à l'échelle nationale, alors que, d'une certaine façon, le mouvement Black Lives Matter a une revendication beaucoup plus large, qui est l'affirmation de la valeur des décors et des vies noires. Et donc, il y a quand même une différence assez forte quant aux modalités d'action entre ces deux types de mouvements.
On va voir, justement, Julien Talpin, comment est-ce que les community organizing pèsent sur la politique locale. Mais d'abord, encore un mot. Est-ce que on peut dire que cette engagement dans les community organizing, il est, disons, ethnicisé, racialisé? Est-ce qu'on trouve finalement autant de community organizing qu'il existe de communautés? Ou est-ce que, au contraire, les community organizing sont fondamentalement interethniques?
Alors effectivement, la spécificité du community organizing, il s'est fondé comme cela, c'est d'être interracial et également interreligieux, puisque la question religieuse est importante aux États-Unis. Donc moi, dans les associations que j'étudie, on retrouve aussi bien des latinos, des noirs, des asiatiques, des blancs également, des gens de toutes confessions, catholiques, protestants, juifs, musulmans. L'idée étant précisément de construire des ponts entre ces différents groupes, puisque la base du community organizing, c'est de mobiliser les gens sur une base territoriale au départ, et donc sur le quartier, éventuellement à une échelle plus importante, à l'échelle de la ville, de la métropole, etc. Mais cet ancrage territorial invite assez fortement à rassembler des gens qui sont d'origine différente au sein de mêmes organisations.
Oui, un ancrage territorial. Néanmoins, il se peut que les territoires parfois soient relativement homogènes du point de vue ethnique et racial. Du coup, cette question se pose quand même.
Alors c'est très variable selon les villes, effectivement. Si on regarde la côte Est, par exemple, à New York ou à Chicago, où la ségrégation socio-spatiale est très forte et où effectivement il y a des quartiers qui sont encore très noirs ou très latinos, les organisations communautaires sont un petit peu moins diversifiées. À l'inverse, sur la côte Ouest, où je mène l'essentiel de mes recherches, où l'immigration latino-américaine est très importante, de fait, la ségrégation spatiale est moins forte, en fait. C'est un élément, moi, qui m'a beaucoup frappé sur le terrain quand je suis arrivé, notamment dans les quartiers pauvres de Los Angeles, et que je m'attendais à avoir un peu l'image, justement, de quartiers monocolores, comme on le voit parfois dans les séries ou à la télévision. Et en fait, c'est beaucoup plus mélangé que cela, du fait, justement, de cette immigration très importante depuis plusieurs décennies.
Alors, on est en période de campagne, les Américains vont devoir choisir un ou une présidente, mais il y a aussi d'autres choix qui vont être faits par, justement, ces communautés au niveau local. Notamment, il y a des référendums, on en avait un petit peu parlé lorsque vous étiez venu à votre précédent passage. C'est devenu un outil extrêmement important pour ces community organizing. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples de sujets concernés par ces référendums locaux? Et est-ce que, précisément, certains sont concernés par cette question des droits des communautés noires, des communautés latino, ou est-ce que, en réalité, là, une fois encore, ce sont des choses qui dépassent assez largement l'identité ethnique et raciale?
Alors, effectivement, on ne le sait pas forcément, mais les États-Unis sont un pays où le recours à la démocratie directe et au référendum est extrêmement fréquent. Et donc, les organisations communautaires en question s'investissent très fortement dans ces référendums pour une raison, tout d'abord, c'est que elles n'ont pas le droit légalement de s'investir dans les élections présidentielles ou de soutenir quelque candidat que ce soit. Elles doivent rester non partisanes. En revanche, elles peuvent s'investir dans ces campagnes référendaires qui sont considérées comme d'intérêt général. Alors du coup, moi, j'ai pu suivre plusieurs campagnes par le passé et cette année, une grande campagne s'est déroulée en 2014. Alors c'est la campagne pour le référendum numéro 47. Chaque référendum, en fait, a un numéro qui a eu des conséquences relativement importantes puisqu'il s'agissait précisément de s'attaquer à la question de l'incarcération des minorités en Californie en particulier. Après quelques mois de campagne par un ensemble d'organisations communautaires et de syndicats, cette proposition 47 est passée. Elle visait en fait à requalifier certains crimes en délits. Et notamment les crimes liés à la possession de drogue, le fait par exemple de se retrouver avec un petit peu de marijuana sur soi, pouvait conduire à des peines de prison et même des peines de prison de plusieurs années. La requalification de ces crimes s'est traduite par le fait que plusieurs milliers de personnes ont pu sortir de prison et un certain nombre d'entre eux ne sont pas rentrés. Si bien que, très très concrètement, le passage de ce référendum s'est traduit par une diminution de 9% de la population carcérale en Californie en 2015, ce qui n'est pas tout à fait négligeable quand on sait la centralité de cette question de l'incarcération des minorités aux États-Unis. Il y a la proposition 57, par exemple, qui vise de la même façon à requalifier un certain nombre d'infractions commises par les mineurs.
Comment est-ce que finalement elles parviennent à faire évoluer les choses? Est-ce que c'est parce qu'elles ont finalement un poids, une influence grandissante auprès des autorités publiques, auprès des maires, des shérifs, que sais-je encore? Ou est-ce que c'est parce que finalement ces mouvements jouissent d'une plus grande visibilité dans l'espace public? On le voit évidemment, ce mouvement Black Lives Matter, il a explosé ces derniers mois. Et d'ailleurs, on le voit sous des formes extrêmement diverses. On l'a vu par ailleurs dans le domaine du sport, par exemple, où le joueur de football américain Colin Kaepernick a lancé un véritable mouvement très fort au sein du sport américain en refusant d'écouter debout l'hymne national pour protester contre le racisme et les brutalités policières aux États-Unis. Depuis, on voit qu'il y en a beaucoup d'autres qui l'ont imité. Qu'est-ce qui fait finalement que ces community organizing parviennent à peser? Est-ce que c'est parce qu'ils ont du poids sur les politiques ou est-ce que c'est parce qu'ils sont visibles dans l'espace politico-médiatique?
C'est toute la différence entre le community organizing et des mouvements sociaux type Black Lives Matter. Black Lives Matter, effectivement, joue beaucoup d'Internet, essaye d'influencer l'opinion publique et se faisant d'influencer les élus et les politiques. Le community organizing repose sur des bases un peu différentes puisque, au fond, le cœur de leur travail et de leur succès, de la même façon, c'est l'investissement du terrain, le travail militant qu'ils effectuent au quotidien et qui va constituer une véritable ressource pour eux. Très concrètement, ça veut dire que ces associations passent l'essentiel de leur temps à mobiliser les gens, à faire du porte-à-porte dans les quartiers populaires en particulier, à faire des réunions d'appartements, à essayer de faire sortir les gens de chez eux en leur disant quelque chose de très simple, c'est de dire bah, « nous, les classes populaires, on n'a pas grand-chose et le seul pouvoir que l'on a, c'est la force du nombre ». Et donc, notre seule capacité à faire bouger les lignes, à influencer les politiques publiques, c'est en se rassemblant et en se mobilisant collectivement. D'où ce travail très intensif qui est réalisé par les salariés des associations. Autre élément qui est également mis en avant, c'est de dire le pouvoir est dans la relation. Et donc, on évoquait tout à l'heure le caractère interracial de ces associations. Et donc, tout l'enjeu pour eux, c'est non seulement que les gens sortent de chez eux, mais également qu'ils construisent des relations aussi bien entre eux, que Noirs et Latinos, par exemple, construisent des liens entre eux plus que ce n'est le cas auparavant, et de la même façon qu'ils puissent se servir de ces relations interraciales comme levier en direction des politiques publiques, avec l'idée que, d'une façon stratégique, auprès des élus, auprès de l'opinion publique, eh ben, cette dimension interraciale, elle marque les esprits. Bien souvent, moi, dans les meetings qui sont organisés par ces associations, je suis frappé de voir à quel point ils essaient de mettre en avant leur diversité, leur caractère multiracial, parce que pour un élu, c'est pas tout à fait pareil d'avoir en face de soi juste un seul groupe ou une sorte de cross-section de diversité, tout groupe ethnique représenté devant lui dans la salle. Et il se dit bien souvent, s'ils sont aussi représentatifs de ce quartier ou de cette partie de la ville, il va être difficile quand même d'ignorer ces revendications, sinon je risque de ne pas être réélu.
Julien Talpin, à l'instant, depuis Los Angeles, chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, co-rédacteur en chef de la revue Participation, et puis auteur, je l'indique, de Community Organizing, de l'émeute à l'Alliance des classes populaires aux États-Unis, c'était aux éditions Raison d'agir. Audrey Célestine, peut-être une réaction sur les propos de Julien Talpin, de ce Community Organizing?
Oui, alors moi je connais... un peu le travail de Julien Talpin qui est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que moi j'ai plutôt l'expérience de la côte Est parce que j'ai travaillé sur la ville de New York et plus particulièrement sur les organisations portoricaines et voilà dites hispaniques à New York, dans la ville de New York, qui est effectivement une ville qui est beaucoup plus ségrégée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on a tendance à qualifier les États-Unis, voilà, de pays communautaristes, parce qu'on voit un peu à distance comme ça ces organisations qui seraient soit monochromes, soit qui regrouperaient ces minorités, il est intéressant de voir qu'effectivement le community organizing, c'est à cette base territoriale, que de fait, le fait que les quartiers soient puissent être des quartiers portoricains, des quartiers noirs, etc., a une importance sur le type d'organisation, mais que la démographie changeante d'un certain nombre de quartiers peut faire qu'une organisation, ça c'est un exemple que j'ai rencontré, qui a continué à s'appeler organisation portoricaine de tel coin de Brooklyn, accueille dans les faits des gamins qui viennent de tout un tas de pays d'Afrique, qui viennent de la Caraïbe, qui viennent de tout un tas d'endroits, parce que de fait, il n'y a pas de discrimination au niveau de l'organisation. Elle sert une communauté qui est entendue au sens territorial, ce qui fait que ce qu'on appréhende comme une forme de communautarisme en France et de fait de l'action en faveur des défavorisés qui vivent dans une communauté au sens territorial.
Ouais, sur le territoire en réalité, ouais. Un attachement territorial très fort. On va quitter les États-Unis, prendre la direction de la Turquie où là la mobilisation est un exercice extrêmement difficile, d'autant plus après le coup d'État de juillet dernier, après les manifestations de Gezi en mars 2013 et peut-être plus encore pour les individus, je reprends votre formule, disons en marge. On va retrouver Janset Kalan de l'association Pembe Hayat pour la défense des droits des transgenres en Turquie. En août dernier, on découvrait horrifié deux meurtres d'une brutalité extrême. Celui d'un jeune homosexuel d'abord, syrien, retrouvé décapité, et celui de Hande Kader, une jeune femme trans mutilée, brûlée vive. Hande Kader figure de la marche des fiertés en 2015, qui s'était fait connaître en s'érigeant contre les policiers qui tentaient déjà il y a un an de réprimer la LGBT Pride. Alors que les marches sont interdites en Turquie pendant l'état d'urgence, ils sont nombreux, le dimanche suivant sa mort, à avoir envahi les rues en mémoire de Hande Kader et à l'appel de Pembe Hayat. On retrouve Janset Kalan au micro de Clément Salaza.
Every year in the summertime during July and August, the violence against trans.
Chaque année, pendant l'été, en juillet et en août, les violences contre les trans augmentent en Turquie. Nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais beaucoup pensent que cela est dû à la vague de chaleur et au fait que parmi les gens qui viennent en vacances, beaucoup sont des jeunes et des personnes des banlieues qui viennent dans les centres-villes et y découvrent pour la première fois la réalité trans. Ils peuvent être très agressifs parfois. La plupart viennent de milieux relativement moins privilégiés. Quand les gens n'ont pas de travail, n'ont pas accès aux services sociaux et culturels, ils deviennent plus agressifs à l'encontre des groupes minoritaire. Depuis juillet, depuis la tentative de coup d'état militaire en Turquie, la violence a augmenté dans tout le pays. Ce n'est pas seulement contre les trans, mais contre tous les groupes d'opposition, les minorités ethniques et culturelles. La violence de genre a aussi augmenté. Le cas de Hande Kader, cet événement, a été terrible pour nous, aussi parce qu'il y a eu d'autres crimes haineux, d'autres meurtres depuis. La Turquie est le premier pays en Europe en termes de violence criminelle à l'encontre des trans. La violence dont ils ont tué Hande Kader, surtout, était terrible, mais je je pense qu'elle a une importance symbolique parce que nous pensons que les auteurs de cet horrible meurtre ont essayé de faire passer un message à la communauté trans, de nous dire « c'est ce que vous méritez, c'est ce à quoi vous devez vous attendre si vous ne vous taisez pas ». Heureusement, le mouvement trans est suffisamment fort en Turquie pour continuer son action, la défense des droits et le combat pour l'égalité. Et nous avons transformé le cas d'Andekader en campagne médiatique afin de commémorer ses actions, sa vie, sa beauté et son militantisme. Nous avons aussi essayé de faire entendre des voix différentes d'individus d'origines diverses. Avant même cet événement, il n'était pas facile d'organiser des marches de protestation en Turquie, mais au moins la police n'était pas systématiquement contre nous. Depuis 2 ans, nous n'avons plus le droit d'organiser la marche des fiertés, et cette année, pour la première fois, ils ont aussi interdit la Trans Pride. Mais en raison d'Andekader, les militants étaient vraiment furieux, et cela leur importait peu que la municipalité autorise ou non la marche. Les gens sont juste descendus dans la rue pour crier, pour manifester.
Alors justement, Janset Kalan, est-ce que vous avez des soutiens politiques ?
Nous sommes entrés en contact avec des députés, des parlementaires turcs. Nous avons organisé plusieurs rencontres à l'Assemblée nationale de Turquie. Nous avons également mis en place des actions communes avec des trans de toute la Turquie. Ils sont venus à Ankara pour rencontrer des parlementaires et nous avons fait une conférence de presse ensemble. Malheureusement, le parti majoritaire au pouvoir, le parti conservateur, l'AKP, n'a pas accepté notre invitation et le parti nationaliste non plus, le MHP. Mais les gens du Parti démocratique et aussi des gens du Parti républicain ont envoyé leurs représentants à la conférence de presse, ainsi que leurs parlementaires. Je pense que ça a contribué à susciter une prise de conscience dans la société sur la brutalité du meurtre d'Andekader et à quel point il est important pour chacun de défendre les droits des trans en Turquie. D'un point de vue législatif, il ne paraît pas possible de faire passer une nouvelle loi ou une réforme pour garantir le respect des droits civils pour tous. Mais il est toujours possible d'accéder à certaines institutions, à certains politiques, et de les inciter à mettre en application les décisions des cours de justice, notamment les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour nous, c'est un processus de compromis. Parfois, on se sent aliéné, isolé, notamment parce que le contexte politique en Turquie est arbitraire, avec l'état d'urgence qui continue, mais d'un autre côté, nous sentons que nous avons gagné du terrain et même du pouvoir dans certaines institutions, certains espaces sociaux et auprès des politiques.
Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations ou groupes de défense des droits des minorités en Turquie ?
Oui, depuis le début du mouvement de libération LGBTI en Turquie, dans les années 90, le mouvement a entretenu des liens avec les autres mouvements sociaux qui défendent les droits humains. En tant qu'organisation trans, nous essayons aussi de conserver d'autres alliés et partenaires afin qu'ils se montrent solidaires et qu'ils coopèrent à notre mouvement. Nous sommes proches des associations de défense des droits, des groupes et associations féministes, des écologistes, ainsi que de nombreuses initiatives citoyennes diverses. Nous essayons aussi de travailler avec certains syndicats et associations professionnelles, comme l'Association médicale turque, ou avec les syndicats. Nous coopérons avec les syndicats de l'éducation et des sciences, ainsi que ceux du secteur public et quelques partis politiques. Nous essayons de les amener à prendre en compte la réalité trans et les revendications des trans dans leur statut.
Voilà, c'est sur cette atmosphère extrêmement violente de la Gay Pride à Istanbul l'année dernière qu'on quitte Janset Kalan de cette association PMB Hayat pour la défense des droits des transgenres en Turquie. Cette Gay Pride l'année dernière où les forces de l'ordre avaient utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des milliers de manifestants. On va retrouver une nouvelle invitée pour poursuivre justement sur la Turquie. C'est Pinar Selek. Bonjour Pinar Selek.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin.
Vous êtes C'était bien d'entendre des voix de mon pays.
on va en entendre une autre voix, justement, de la Turquie, la vôtre. Vous êtes sociologue, docteur en sciences politiques et militante turque en exil en France depuis 2011. Faut d'abord que je vous présente un petit peu auprès des auditeurs de France Culture qui vous connaissent peut-être pas. Vous êtes notamment connu parce que vous êtes retrouvé il y a quelques années au cœur d'une affaire judiciaire probablement les plus emblématiques de ces dernières années, une affaire qui montre parfaitement la pression dont font l'objet les universitaires, les intellectuels, les journalistes. Vous avez une vingtaine d'années et vous êtes injustement accusé d'être à l'origine d'une explosion. On vous dit responsable d'avoir organisé un attentat à la bombe ayant provoqué la mort de 7 personnes et fait une centaine de blessés. C'était le 9 juillet 98. dans le bazar égyptien à Istanbul. Alors pourquoi cette accusation? Parce que vous avez refusé de livrer à la police le nom de personnes que vous aviez interviewées dans le cadre d'un projet de recherche universitaire sur la question kurde. Et votre refus de coopérer va vous conduire dans cette cabale politico-judiciaire qui va vous forcer à quitter le pays, bien que vous ayez été acquitté plusieurs fois, faute de preuves et pour cause. Aujourd'hui, vous poursuivez votre travail de thèse sur les mouvements d'émancipation en Turquie à l'université de Strasbourg. Je voudrais vous entendre...
J'ai fini il y a longtemps.
Alors, en tout cas, je voudrais vous entendre, Pinar Selak, si vous voulez bien, sur ce témoignage qu'on vient d'entendre, où on a vu cet été la communauté LGBT qui s'est retrouvée sous le choc après deux assassinats particulièrement violents, ce jeune ressortissant syrien homosexuel réfugié à Istanbul, dont le corps a été retrouvé début août, totalement mutilé dans une petite ruelle, et puis celui d'une jeune femme trans de 22 ans, Hande Kader, figure du mouvement LGBT turc. Elle a été retrouvée, elle, mutilée et brûlée vive aussi, dans un quartier résidentiel au nord d'Istanbul. Votre regard sur ces deux événements qui prouvent les changements, peut-être, ces dernières années sur la question des droits des minorités, parce que, précisément, Istanbul, c'était une ville qui était, il y a quelques années encore, plutôt vue comme une ville où régnait une certaine tolérance, une certaine liberté pour la communauté LGBT. Pinar Selak.
Ce n'est pas le cas. Alors, en général, oui, la contre-culture, la sous-culture, je ne sais pas comment dire, transsexuelle était toujours présente depuis l'Empire ottoman, mais il y avait toujours la répression, il y avait toujours la violence, et moi, j'avais écrit un livre sur cela, près de Taksim, il y avait une rue dans les années 90, une rue où il y avait la moitié était des transsexuels, et ils ont vidé cette rue avec une violence extrême avec les drapeaux turcs il y a 20 ans à peu près. Donc cette violence a toujours continué. Et si vous regardez les chiffres, vous voyez que tous les mois il y a au moins deux ou trois personnes transgenres ou transsexuelles sont tuées. Alors c'est pas nouveau ça, mais ce qui est nouveau, c'est la visibilité. Et depuis une, disons, 5-6 ans, les transsexuels sont très organisés et ils ont une convergence avec les autres, comme il a dit tout à l'heure. Et il y a une grande convergence et ils ont même, pas seulement les transsexuels, mais en général le mouvement LGBTI avec le mouvement féministe, ils ont même pu changer et plusieurs mouvements contestataires par rapport à ces questions-là.
Ce qui est très frappant aussi, Pinar Selak, c'est aussi peut-être le silence des médias, le manque de réaction de l'opinion publique turque. Finalement, on a vraiment l'impression qu'il ne reste plus grand-chose de la capacité protestatrice de la Turquie. Après le coup d'État manqué, Pinar Selak, vous répondiez à une interview dans le journal Le Monde, dans laquelle vous disiez croire que votre pays, je vous cite, sortira un jour de ce système autoritaire. Comment il sortira? Est-ce que ce sera par les urnes? Est-ce que ce sera par une révolution qui renversera Erdogan et où justement les différents mouvements de contestation et pourquoi pas justement ceux qui sont liés aux droits LGBT, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la chose, Pinar Selak?
Je pense que surtout depuis le coup d'État 80 et en Turquie, c'était le plus grand coup d'État, et il y a eu un espoir très important parce qu'il y avait, il s'est commencé un nouveau cycle de contestation en Turquie. Entre les années 80 et 2000, on a vu qu'il y a une création d'un nouveau cycle de contestation et ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et il y avait seulement la gauche révolutionnaire qui dominait l'espace militant, mais il n'y avait pas cette multiplicité. Et maintenant, il y a plein de groupes qui se sont formés dans les conditions de violence, de répression, et qui ont créé plusieurs adaptations tactiques. Ils ont développé leur organisation avec un pragmatisme radical même, et malgré la guerre, malgré la violence. Et cela me donne l'espoir parce que malgré tout, je pense qu'il y a un avancement très très important et il y a différence, pas seulement les organisations, mais une multiplicité des plateformes, des réseaux communes qui facilitent la diffusion des idées, des concepts, des revendications. Ils sont à la fois très locales et à la fois transnationale.
Oui, mais sauf que la question, le défi, Pinar Selleck, c'est de réussir à cristalliser tous ces différents mouvements. Vous dites-vous que la répression étatique, elle favorise le rapprochement des mouvements contestataires, que ce soit LGBT dont on parlait, antimilitaristes, écologistes, les Kurdes, les Arméniens, sauf que concrètement, ces mouvements, elles ne parviennent pas à se traduire en tant que force politique. Alors, je ne sais pas s'il existe en Turquie une force politique qui pourrait justement porter ces revendications. On pourrait peut-être penser au HDP, le parti pro-kurde, mais qui en réalité a assez largement élargi sa base électorale. Mais en tout cas, on voit bien que là, on n'arrive pas finalement à cristalliser tout ça et construire un front anti-AKP.
Oui, peut-être c'est pas évident d'attendre très vite une cristallisation, parce que la plupart de ces mouvements ne veulent pas s'inscrire dans un mouvement dans un parti politique, disons. Et je crois que les luttes maintenant ne sont pas très visibles, mais elles existent. Et ils sont très locaux. Et il y a moi j'ai plein de relations et il y a plein de groupes qui s'inscrivent un peu au longue durée avec des différentes tactiques d'organisation. Et il y a plein de gens qui ne votent pas, ça c'est très bien, mais voilà. Mmh. Et donc moi je pense que quand il y avait HTP, quand il a réuni toutes ces différents groupes, et malgré les répressions, il y avait quand même 13%. Mmh. On est maintenant, il ne faut pas oublier ça, dans un contexte de guerre, une vraie guerre tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes. Et pour cela, la plupart des militants, ils continuent à lutter, mais en même temps, ils se préservent, ils se protègent. Mmh. Parce qu'il y a la violence extrême et meurtrière maintenant.
Pinar Selleck, je voudrais vous poser une toute dernière question. On arrive presque au terme de cette émission, mais j'ai envie de vous la poser. Parce que votre père était un défenseur des droits de l'homme. Vous étiez encore toute jeune lorsqu'au début des années 80, il est arrêté et mis en prison pendant plusieurs années. Quel parallèle vous voyez entre la répression actuelle et celle dont faisait l'objet la gauche des années 80 en Turquie, en quelques mots?
Moi, je ne veux pas comparer seulement ces deux périodes, cela nous empêcherait de mettre en avant la continuité d'un système de répression. Quand j'étais en prison, par exemple, dans les années 90, il y avait 45 000 prisonniers politiques. Et c'est pour cela. Mais c'est la seule chose que je peux dire, à l'époque, il n'y avait pas ces mouvements et ce nouveau cycle de contestation avec toutes ces plusieurs dynamiques et qui ont trouvé des adaptations tactiques qui peuvent pour se préserver. Mmh. À l'époque, ce n'était pas le cas. Mmh. Donc, on était plus, on n'avait pas cet espoir-là.
Mais ce qui explique votre optimiste actuel. Merci beaucoup, Pinar Selleck. Et puis, je rappellerai aussi, parce que je ne l'ai pas dit, que vous êtes aussi écrivaine. Notamment, vous avez écrit ce roman, La Maison du Bosphore, qui avait été publié chez Liana Levy. Un grand merci à vous, Pinar Selleck. And I got what you need. Don't you know that I got what you need? Yeah, I'm right where I'm supposed to be. Et un grand merci à vous, Audrey Célestine, de nous avoir éclairé sur ce mouvement des Black Lives Matter. Nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler à ce même micro. Un grand merci en tout cas à vous.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.
Il est presque 11h53, l'heure pour nous de reprendre notre petit tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on poursuit justement sur le conservatisme qu'on avait évoqué hier. On s'était quitté du côté de la Grande-Bretagne. On retourne du côté de la Grande-Bretagne. Dans quel état d'esprit, Brice, le gouvernement de Theresa May aborde-t-il les négociations avec l'Union européenne pour le retrait de la Grande-Bretagne, Brice?
Eh bien Florian, après être resté de longues semaines dans le vague, la première ministre conservatrice a cette fois tracé ses lignes rouges, préalables à l'ouverture des négociations, dans son discours de dimanche à Birmingham. Devant le Congrès conservateur, elle a indiqué qu'elle n'accepterait ni la libre circulation des personnes, ni la juridiction de la Cour européenne de justice. L'ensemble de son discours était marqué par ce qu'on appellerait chez nous le souverainisme. Et elle a fixé le calendrier du processus de rupture des amarres avec l'Union européenne. Elle déclenchera l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin du mois de mars de l'an prochain. La sortie du Royaume-Uni, le Brexit proprement dit, devra donc être actée au printemps 2019. Alors certains soft Brexiteurs lui conseillaient d'attendre les élections allemandes. Une chancelière en campagne électorale risque en effet de se montrer moins ouverte au compromis. Mais l'électorat britannique risquait de prendre cette précaution diplomatique pour une astuce destinée à retarder, voire à empêcher la rupture des liens entre les îles britanniques et le continent. Les négociations entre les Britanniques et l'Union européenne sur les futures relations entre nous vont donc durer 2 ans. La ligne a été tracée par le fougueux Boris Johnson, l'ancien maire de Londres devenu ministre des Affaires étrangères. Nous n'allons pas quitter l'Europe. Nous demeurerons engagés par toutes sortes de coopérations au niveau intergouvernemental. Mais nous allons reprendre le contrôle de notre démocratie, de nos frontières, de notre monnaie, de nos tarifs douaniers, passer des accords de libre-échange avec les pays de notre choix à travers la planète. Fin de citation. Comme lors d'un divorce entre gens civilisés, tout pourrait bien se passer, on renonce à la vie commune, mais on reste lié pour l'éducation des enfants, la gestion des biens acquis ensemble, mais il faut aussi tenir compte du point de vue de l'Union européenne. Bruxelles ne voudra pas offrir aux Britanniques un départ à des conditions exagérément favorables. Car si Londres conservait les avantages de l'Union européenne sans en assumer les contraintes et les charges, ce précédent risquerait d'inspirer d'autres demandes de sortie. Ainsi, les Britanniques ne sauraient demeurer membres de plein droit du marché unique tout en refusant les décisions de la Cour de justice européenne, car celle-ci est précisément compétente en matière de libre circulation des personnes et des marchandises. La Grande-Bretagne devra sans doute renoncer donc au marché unique, restera-t-elle membre de l'union douanière? Selon l'analyse du Financial Times, Theresa May, en plaçant la barre assez haut, envoie en fait un message à ses 27 ex-partenaires de l'Union européenne. La Grande-Bretagne peut quitter l'Union en restant avec elle en bons termes, mais la Première ministre est également prête à la confrontation. Elle n'exclut pas un départ dans le fracas des portes qui claquent, scénario qui ne serait profitable à personne.
Le Parti conservateur, Brice, était extrêmement divisé sur la question du Brexit. Comment peut-on caractériser la position personnelle de Theresa May?
Elle a été choisie par le Parti conservateur pour succéder à David Cameron comme Premier ministre, justement parce que sa position sur le Brexit était ambiguë. C'est une eurosceptique, pas de doute, mais elle n'était pas pour la sortie de l'UE. Elle se disait satisfaite des concessions obtenues par Cameron. Cette position équivoque peut-elle lui permettre de refermer la fracture qui sépare dorénavant les Britanniques en 2 camps difficilement réconciliables? Le slogan qui lui sert de manifeste est explicite. « A country that works for everyone ». Un pays qui fonctionne pour chacun, ce qui constitue, soit dit en passant, une critique implicite de son prédécesseur David Cameron. Ce dernier a cherché à incarner un conservatisme compassionnel et modernisateur, favorable aux idées écologistes. Le logo du parti est dorénavant un arbre verdoyant. Theresa May est, comme Angela Merkel, une fille de pasteur. Elle doit son ascension sociale à une de ses grammar schools, symbole de l'idéologie méritocratique des années 60. Significativement, Theresa May a invoqué à Birmingham une personnalité qui en fut le maire de 1873 à 1876, Joseph Chamberlain. Ce politicien libéral fut surnommé « Radical Joey » parce qu'il fit de sa ville l'une des plus avancées sur le plan social de l'époque. Bibliothèque gratuite, fondation de l'université de la ville qui existe toujours, municipalisation de l'eau et du gaz. Il est demeuré célèbre, entre autres, pour avoir déclaré au Parlement britannique « Je demande quelle rançon la propriété va-t-elle payer pour la sécurité dont elle jouit dans ce pays ?» Ce libéral en politique était protectionniste en économie et rêvait d'organiser l'Empire britannique en le protégeant de la concurrence étrangère. Ce qui l'amena à organiser une scission au sein du Parti libéral, les libéraux unionistes, et à s'allier avec les conservateurs à partir des élections de 1886. D'ailleurs, en 1912, les deux partis fusionnèrent. Alors ce patronage indiqué par Theresa May indique aussi la ligne politique qu'elle entend suivre à la tête du gouvernement britannique. Un certain volontarisme économique au service d'une politique sociale ambitieuse. Elle passe pour vouloir faire payer leurs impôts aux géants du numérique. Elle favorisera le retour de la politique industrielle et des investissements publics. Elle se montrera moins favorable à l'écologie et au libre-échange que son prédécesseur.
Merci. Brice. pour cette chronique, pour cette série sur le conservatisme, qu'on peut retrouver, j'invite les auditeurs d'ailleurs à le faire, sur la page du Tour du Monde des Idées. On tapote sur le moteur de recherche, on réécoute et puis on s'inscrit aussi au podcast, hein, Brice.